Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Moi, j'ai toujours su que j'étais pas un garçon. Et je savais que j'étais pas une fille, j'avais des frères et sœurs. Mais dans la société des années 70, il n'y avait rien d'autre. Et donc, je me croyais seul au monde et je me disais, bon, bah, puisqu'ils disent tous que je suis un garçon, on va faire avec.
À l'école, on devait faire un spectacle de danse fille-garçon. Je me rappelle de mon pote. Il voulait trop pas danser avec moi parce que lui, il savait, tu vois. C'est genre, c'est instinctif, il savait.
Il savait quoi ?
Bah, il savait que j'étais pas une fille. On était obligés de danser ensemble. Avec ma jupe en papier. Et lui, je sais pas ce qu'il avait, le pauvre.
Oui, ça commençait vraiment à l'adolescence. Parce que les gamins font leur puberté, puis... Ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu une montée de lait et ma mère m'a dit que c'était normal pour un garçon. Et je lui ai fait confiance. Mais bon, quand j'en ai parlé à mon meilleur copain, lui, il n'en avait pas. Puis il s'est bien moqué de moi.
Ils ne sont ni garçons ni filles. En réalité, ils aimeraient pouvoir se considérer comme indéterminés ou choisir, en tout cas librement, le genre qui leur correspond le mieux. À terme, ils voudraient qu'on supprime les catégories de sexe ou de genre sur les certificats de naissance et les pièces d'identité, comme c'est le cas en Allemagne depuis le mois de novembre dernier. Ils ne sont pas non plus malades, bien au contraire, sauf au regard de la société et de certains médecins qui se sont acharnés à leur attribuer un genre en les opérant sans leur demander leur avis. Dire qu'ils sont hermaphrodites serait également une erreur ou un fantasme, puisque dans la mythologie grecque, l'enfant d'Hermès et d'Aphrodite possède des organes sexuels à la fois mâles et femelles, tous deux pleinement fonctionnels, ce qui n'est pas leur cas. On préférera donc les appeler intersexués ou juste par leur prénom en espérant qu'ils soient neutres. En fait, si on en croit les dernières avancées de la biologie, il est très difficile de définir scientifiquement ce qu'est le sexe. On peut avoir une anatomie masculine et un patrimoine génétique XX, donc femelle, et aussi on peut avoir une anatomie féminine tout en produisant de la testostérone. La définition de la masculinité ou de la féminité n'est donc pas à aller chercher dans l'anatomie, les gonades, les hormones ou les gènes, mais dans un ensemble de données. Il existerait donc en réalité une infinité de degrés d'intersexuation. Aujourd'hui, Vincent, président de l'Organisation internationale des intersexes, rencontre donc pour la première fois Ikram, en quête de son identité et de son histoire médicale. Mais avant eux, on commence notre petite enquête dans l'intersexe avec Dani, qui vit dans une minuscule maison de pêcheur sans eau courante ni électricité, au bord de la Méditerranée, jusqu'à 14h dans les pieds sur terre, sur France Culture, un reportage d'Inès Lérault réalisé par Delphine Lemaire.
On ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
J'avais un rêve, c'était aller en Irlande. Donc je suis parti, j'avais 22 ans, 23 ans en Irlande. Et je ne savais pas quoi faire de ma peau, sauf que j'avais rêvé d'aller en Irlande, donc j'allais en Irlande. Et je suis arrivé par hasard dans un endroit où il y avait un type qui jouait de la guitare. Et là, il interprétait une chanson qui s'appelait Lord Franklin. Et moi, j'ai complètement craqué. J'ai dit, mais c'est ça que je veux faire. Je me suis acheté une guitare. Voilà. C'est comme ça que je suis devenue musicienne. À 40 ans, j'ai appris le solfège. Parce que je ne pouvais plus progresser. Puis voilà. En fait, la musique, pour moi, c'est une... C'est une immensité, c'est un langage universel. Et On peut rencontrer n'importe où, n'importe qui sait jouer. On pourra se parler et se comprendre.
T'étais un cancre à l'école?
Totalement. Études désastreuses. J'ai passé mon bac à 50 ans.
Et t'as quel âge maintenant?
56. Et tout ce que je sais maintenant, c'est dans les livres que je les ai appris. Ou dans la vie. Ou la vie.
Quel est le livre qui t'a le plus marqué?
Ben, je suis tombé par hasard sur La Métamorphose de Kafka quand j'avais 10 ans. Quelqu'un qui se réveille, qui se transforme en blatte, en cafard, petit à petit. Et c'est vrai que j'ai fait des rêves bizarres après.
Tes rêves, ils portaient sur quoi après?
Ben, que j'étais un cafard qui devenait homme, ou femme, ou je sais pas, humain. L'inverse en fait, mais c'était tout aussi horrifiant. Parce que finalement, être un cafard, c'est pas mal.
Comment t'as découvert finalement que t'étais hermaphrodite?
J'ai fait ce qu'on appelle une vraie dépression. Et j'habitais dans un tipi en Ardèche. Une toute petite maison. J'ai décidé que j'allais faire une introspection et trouver ce qui déconnait chez moi. Donc je suis allé voir un copain, je lui ai dit, j'ai un renard sur le terrain, tu me prêtes ton fusil? Il m'a dit oui. Et donc je suis rentré avec de la bouffe et puis j'ai dit, maintenant tu trouves ou c'est fini quoi. Et j'ai défoncé plein de portes dans mon cerveau pour aller chercher dans tous les recoins possibles et imaginables ce qui pouvait bien merder. Et puis j'ai trouvé plein de trucs. J'ai fait une synthèse, au moment où je faisais cette synthèse, il y a le ciel tout gris de mon âme. Il y a un petit coin du ciel qui est devenu bleu avec de la lumière. Et j'ai dit, ça c'est l'espoir. Je vais suivre cette voie. Donc, je vais ramener son fusil en disant, j'ai pas vu le renard. Le renard, c'était moi. Et donc après, j'ai contacté des médecins et tout. Le processus s'est enclenché et j'ai découvert le poteau rose. Mon mal-être venait de ce rôle qu'on me faisait jouer depuis le départ et qui ne me convenait absolument pas.
Parce que t'as été élevé comme un petit garçon.
Ouais. Et donc c'était un peu l'horreur. Mais oui, assigner quelqu'un à une vie qui ne lui correspond pas, c'est de la torture.
Tu crois que tu aurais été élevée comme une petite fille, ça aurait été plus simple?
Je sais pas. Je sais que disons, le rôle social féminin est plus confortable en ce qui me concerne, parce que c'est plus facile d'être... une fille ratée qu'un garçon raté. Mais bon, c'est vrai que j'ai quand même passé 30 ans à pointer le doigt vers le ciel en disant téléphone maison. Il y a des cases et on rentre pas dans les cases. Donc un peu c'est une sortie de l'humanité quelque part.
L'intersexe?
Oui. Mais dans notre monde actuel, la différence est une maladie. Mais qui peut soutenir ça? Dire, ah, vous êtes handicapé. Non, ça n'existe pas le handicap. Moi, je dis que le handicap n'existe pas. Ce qui existe, c'est la différence. Quand on accepte la différence, là, il y a du respect. Je veux dire, nous, les intersexes, on a les mêmes combats que les sourds avec un S majuscule. Alors que nous, on se bat contre la barbarie, des mutilations médicales à la naissance. Eux se battent contre les implants à la naissance pour normaliser, sous prétexte du bien-être de l'enfant. à savoir, si il n'est pas comme tout le monde, il sera malheureux. Et en fait, c'est le même combat. Et en plus, maintenant, chaque fois qu'il y a quelque chose qui est décelé à l'échographie, il y a avortement thérapeutique qui est conseillé. Donc en fait, on est en train de nous interdire d'exister, alors que on a quand même une sensibilité différente et qu'on a quelque chose à apporter à la société.
Aujourd'hui, tu te considères plus comme femme ou comme intersexe ?
Aujourd'hui, je me considère plus comme intersexe. Je dirais que je suis un intersexe féminin.
Il suffirait d'un peu de place pour redonner un peu d'espace aux sentiments de vous à moi. Mais en voyant ce qui se passe dans ce monde qui me glace, comment ne pas perdre la foi ? La vie nous traîne, la vie nous entraîne. Heureusement qu'il y a ces notes qui nous charment ou qui nous choquent, qui donnent un peu d'espace aux liens qui nous attachent. Il suffirait d'un peu de brise pour balayer cette chose grise que l'on nomme l'indifférence, ressemble tant à la bêtise que nous portons comme une chemise. Le charme, c'est la différence.
France Culture, les pieds sur terre.
Ça va ?
Ça va.
T'es beau !
Vas-y.
Je suis super contente de te voir. Ce qu'on s'est dit au téléphone m'a énormément touché, quoi. Alors c'est vraiment une histoire tellement incroyable et tellement violente. Je crois que c'était la dernière fois qu'on s'est eu au téléphone, j'ai écourté, quoi, parce que j'étais en train de pleurer au téléphone et c'était plus tenable, quoi.
Merci.
Avec toi.
Bah, voilà. Le problème, c'est que j'arrivais pas à pleurer à ce moment-là. Tu sais, je t'avais parlé de... Ouais. Hein, j'arrive plus à pleurer, est-ce que je suis devenu un monstre ou... Après, j'ai réussi à pleurer.
Pour moi, c'est toujours très important de rencontrer d'autres intersexes. Il y a ce vécu particulier qu'on a besoin de partager. Moi, je suis travailleur social de formation. Les premières fois, je laisse la personne se dire, elle me demande à me voir. Et je suis là à son service. Donc, je demande vraiment rien. Et des fois, il faut plusieurs entretiens pour que la personne commence. C'est quand même super violent de raconter son histoire en même temps que tout le monde dénie cette propre histoire. Donc, le processus, c'est un peu... les personnes pensent, moi, j'ai eu ça pendant longtemps. Est-ce que je suis pas fou ? Moi, j'ai la chance d'avoir toutes ces cicatrices qui zèbrent mon ventre, mon torse, mon sexe, etc. Donc, et en plus, ces cicatrices qui s'infectent régulièrement. Donc, c'est écrit dans mon corps qu'on m'a modifié. Donc, j'ai toujours su que j'étais pas fou, mais je me suis quand même souvent demandé est-ce que je délire pas. Et en général, c'est ça. C'est surtout ceux qui ont été transformés en filles, les cicatrices, elles sont à l'intérieur. Et donc, il n'y a pas de trace du forfait. La forfaiture médicale. Et du coup, c'est très dur pour la personne de se dévoiler, parce qu'elle-même, elle a besoin de preuves.
Toi, Ikram, on t'a dit que t'étais une petite fille.
Oui, j'ai été élevée comme une fille, ouais. Pour moi, j'étais pas une femme. Quand j'étais petit, je me travestissais, ouais.
Moi, j'adore les corps intersexes. Alors, vraiment, on a tous des tronches d'enfer, quoi.
Quand je suis arrivé à Lyon, je suis arrivé dans le milieu trans. Ah, t'as un pacing.
Passing, ouais.
Pardon.
Un passing, c'est quand un trans passe bien pour le sexe qu'il a choisi.
Ouais. Quoi, tu prends pas d'hormones, quoi ? Ouais, grave. Et voilà.
Je pense que c'est pas par hasard que Ikram est passé comme ça, à traverser la communauté trans. Avant que les trans arrivent, nos organes génitaux étaient nécessairement horribles. Et on pouvait très difficilement se faire une image positive de nos corps. Grâce à la visibilité trans et à l'érotisation de ces sexes et de ces corps hybrides, c'est-à-dire avoir un gros clitoris avec un vagin et être fier d'avoir ça et de l'utiliser, et que c'est un objet de plaisir, c'est un objet érotique, on peut s'aimer Alors moi je me suis aimé avant, mais pour la, enfin moi je suis une exception. Il y a très très peu d'inter qui aiment leur corps tel qu'il est. Quoi. J'ai jamais réussi à m'expliquer pourquoi j'ai toujours aimé mon corps. Parce que moi j'ai été mutilé très tard, hein, à partir de 7 ans. Et donc je connais mon corps d'origine. Bon, quand t'es un enfant de 7 ans, tu dis pas j'aime mon corps, mais moi il me posait pas de problème. Voilà, ce qui me posait problème, c'était le regard d'autrui, et puis c'était la médicalisation permanente, et pas pouvoir aller à l'école. Je passais ma vie à l'hôpital ou en convalescence, ça oui, sans comprendre pourquoi d'ailleurs. Moi j'ai jamais compris les canons de la beauté, quoi. Ce qui m'attire chez les gens, c'est la myopie. Je suis toujours attiré par des myopes, donc je serai myope sexuel, quoi. J'aime les regards de myopes, tu vois, j'ai toujours l'impression qu'ils me regardent avec amour, en fait, et qu'ils s'approchent pour te voir, quoi. Et moi, mon compagnon est trans, mais il est petit, chauve, gros, poilu et myope, donc pour les gens, c'est pas un beau mec, quoi. Et moi, j'adore ce corps, quoi.
Votre compagnon est homme trans?
Ouais.
Donc homme trans, c'est une femme qui s'est transformée en homme?
Bah, c'est quelqu'un qui est né avec un corps femelle et qui a une identité homme. Ouais, ouais. Ouais, je crois que ça, c'est super important, quoi. On peut être un homme qui aime une femme sans vagin ou une femme avec un pénis ou tout ce qu'on veut, et on peut être une femme qui aime un homme qui a un vagin ou qui n'a pas de vagin mais qui a un tout petit zizi. Voilà, quoi.
Qu'est-ce qui s'est passé à 7 ans pour qu'on décide de vous opérer?
Ah, moi, ils ont vu à la naissance que ça collait pas. C'était pas une petite fille, mais c'était pas tout à fait un petit garçon. Donc on m'a déclaré garçon, et puis le médecin a dit on verra quand il aura l'appendicite, quoi. Et à 7 ans, j'ai eu mal au ventre, donc bingo, quoi. C'était une appendicite, donc on a commencé à ouvrir et à vider le poulet de ses entrailles. Et puis voilà, ça a duré comme ça pendant toute l'enfance, enfin, l'adolescence. Ils appellent ça des explorations fonctionnelles. Donc ils ouvrent, ils font des choses dedans, ils referment, mais on ne sait pas, mes parents ne savent pas, moi je ne sais pas, c'est pas dans mon dossier.
Vos parents ont accepté à l'époque?
Non, mes parents, ils n'ont rien compris. On leur a dit, c'est un garçon, on va vous le réparer, c'est pas grave, on sait faire. Et puis, là, je sais pas combien tième opération, il y en a eu 10. Enfin, ils ont programmé une très grosse opération et maman a dit stop, quoi. Vous me dites à chaque fois que, et puis ça change rien, donc voilà, non, on laisse tomber, quoi. Donc on est reparti à la maison et en fait, ils lui ont envoyé une lettre en disant, bon, si on l'opère pas, il risque d'avoir un cancer, donc ça sera de votre faute. Et donc, du coup, maman a accepté cette ultime opération qui est probablement l'ablation de l'utérus, mais on ne sait pas. Et elle s'en est énormément voulu, quoi, parce qu'elle a été culpabilisée à mort. Et maman, quelques jours avant de décéder, m'a dit « Tu diras bien à tes médecins qui m'ont pourri la vie. » Et elle m'a dit « Si j'avais su, j'aurais avorté, quoi. » Moi, j'entends cette souffrance. Parce qu'en plus, mes parents sont très croyants, donc moi, je suis un enfant du bon Dieu, quoi. Enfin, que je sois un garçon, une fille, ou autre chose, c'était pas le problème. Parce que dans ce milieu-là, si tu te maries pas, tu deviens curé. Donc voilà, ils pensaient que je viendrais curé, et puis c'est tout. Donc on a dramatisé une histoire qui aurait pu se passer assez sereinement. Et du coup, bon, moi, ils m'ont fabriqué un pénis et qui marchait. Maintenant, il ne marche plus, je suis vieille. Il ne marche plus, mais qui marchait à l'époque. Donc, moi, j'avais des rapports tout à fait hétérosexuels avec ma compagne. Et si on m'avait parti à l'utérus, j'aurais pu porter mon enfant. Et il serait né par césarienne, puisque je n'ai pas de cavité vaginale. Mais voilà, donc tout ce qu'on peut imaginer existe et tout ce qui existe est vivable sereinement. Et j'ai envie de me faire une pause et je crois que je vais me fumer une clope.
Ah, moi aussi, je vais fumer une clope. Je peux t'en offrir une? J'ai une blonde. Ouais, des blondes.
C'est quoi?
Des petites blondes.
Oh, les petites blondes.
D'ailleurs, j'en ai rêvé cette nuit. C'était eux qui venaient nous attraper.
Vincent, vous disiez à Ekram que... Mais comment on a pu te prendre pour une fille?
Voilà, il prend pas d'hormones, il a les jambes 10 fois plus poilues que les miennes. Il a des poils, il a la mâchoire carrée. Voilà.
On entre?
Ça veut dire.
Il y en a, ils arrivent pas à ouvrir les yeux. Enfin, t'as l'impression qu'ils restent butés sur le truc. On t'a connu comme ça, c'est bon.
On t'a connu comme une fille.
Ouais. Je sais qu'il y a certaines personnes, ils pourraient me voir avec une barbe. Pour eux, ça serait pas possible. Tu sais, les schémas conventionnels et tout qu'on peut donner en sciences de la vie et de la terre. Voilà un vagin, voilà un pénis. Tu sais, genre un système de reproduction humain. Ça correspondait pas.
Physiquement, tu correspondais à aucun des deux.
Ouais, c'est ça.
Et tes sœurs, ta mère te disent « Mais non, t'es une fille, y a pas de souci. »
Enfin, non, aujourd'hui, non, elle me genre pas. Hein. Elle me respecte beaucoup, ma mère. Mais elle a peur juste de la méchanceté des gens autour. Hein.
Elle te dit « il » ou « elle » ?
Non, elle me dit rien et ça me va très très bien. Elle me dit « mon bébé » et ça me va très très bien. C'est clair.
Il y a des éléments physiologiques qui disent qu'il est intersexe. Il y a des éléments physiologiques très très clairs qui disent qu'il n'est pas né pleinement femelle.
Bah moi, en fait, ouais, je voudrais savoir et faire mon petit parcours, quoi, je veux dire. Qu'on arrête de se foutre de ma gueule. Qu'on arrête de me prendre pour un fou.
Il nous faut absolument des éléments médicaux qui disent que dans ton corps, il y a quelque chose qui n'est pas pleinement femelle.
Par exemple, il est quoi ?
46XX.
Dans ton corps, donc les chromosomes, c'est mort. T'es une femme, et si on va sur les chromosomes, tu seras une femme, et point barre.
Pour le coup, là, je te pose une question intime. Est-ce que tu as eu tes règles et est-ce que tu as tes règles régulièrement et,
J'ai eu mes règles, j'ai eu une aménorrhée aussi.
Comme toutes les femmes, ou elles sont beaucoup plus irrégulières, beaucoup moins importantes.
C'est le bordel.
Excuse-moi, mais... Je pourrais te parler de mes organes génitaux si tu veux, mais je crois que ta cavité vaginale, tu peux rentrer un doigt, tu peux rentrer un pénis.
À 27 ans, j'ai eu ma première consultation de gynéco, bah, elle m'a violé en fait. Sans me regarder, elle a fait comme ça. Et en fait, j'ai crié toutes mes forces, ouais. Ah mais vraiment, elle a fait ça rapidement, elle est partie direct dans son bureau, et là toute la journée j'étais mal.
On a deux éléments probants. Une forme d'intersexuation. On a une personne qui a une petite cavité vaginale et un corps typiquement masculin. T'as pas du tout de poitrine ou t'as une petite poitrine?
Si, j'ai pas de poitrine.
Voilà, non, mais... Et on a une suspicion très très forte de réduction clitoridienne dans la petite enfance. Voilà, pour moi c'est évident, il y a eu au minimum réduction clitoridienne. Il n'y a pas eu fabrication d'un vagin, et très probablement parce que tu es jeune, qui pensait dilater le vagin pendant l'enfance et la puberté, et que maman ne l'a pas fait, n'a pas été en capacité de le faire.
C'est ce que je me suis dit aussi. Ouais, en fait,
Donc du coup, tu n'es pas trop mutilé. Ce qui ne te console absolument pas, parce que à mon avis, en termes de sensibilité, ça doit être compliqué. Mais voilà.
Ah.
J'ai eu un contrôle de police.
Ouais.
Qui s'est grave super mal passé.
À cause de ça.
Ouais,
c'est ça.
Ils ont cru que je falsifiais ma propre identité en fait.
Tout à fait. C'est ce que je disais dans mon.
J'aurais dit, mais mettez-moi en prison. On a le droit d'être ce qu'on est. Mais si tu te fais casser la gueule, eh ben si tu vas chez à la police, eh ben c'est normal pour eux en fait, t'as l'impression.
Ça vous arrive souvent de vous faire casser la gueule ?
Bah, moi, là, j'ai eu une agression. Il y a eu un procès et tout. Bah, je me suis fait agresser. Je suis tombé dans le coma 20 minutes, en fait. Le mec, il a foncé sur moi.
Pourquoi il t'a agressé ?
J'étais dans un McDo. et il parlait sur moi. J'étais tout seul avec mon café. Je fais, qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux mon numéro ? Et l'autre, il m'a dit, espèce de folle. J'ai fait, ok. Je me suis retourné. J'avais mon café chaud, je lui ai balancé dans la gueule. Et après, plus de souvenirs. carrément, il m'a défoncé, vraiment. Hein. Je me suis réveillé dans mon vomi, c'est le mec qui m'a. Le pompier qui m'a réveillé. Enfin, tout le monde était choqué autour. En plus, c'était un moment dans ma vie, genre, ça me dérangeait pas de me faire casser la gueule. En plus, limite, je me disais que j'en avais besoin. Genre, j'avais besoin de me faire casser la gueule.
Ça, c'est typique des prises de risque, des intersexes. À un moment donné, quand on n'arrive pas à être bien parce que la société te rejette, etc., il y a des prises de risque. Et un autre volet de notre quotidien, c'est le sexe de survie, quoi. C'est pas la prostitution en tant que telle, hein. Mais où à un moment donné, voilà, la première personne qui va dire « j'ai envie de te sauter », ben, elle a envie de toi, quoi. Et ça, c'est tellement rare. Et qu'en plus, si ça peut te donner à bouffer ou un lit pour une nuit ou quelques nuits, forcément, on y va. Enfin, voilà, la prostitution m'a sauvé, quoi. Quand on m'a dit « j'ai envie de toi », waouh, il y a quelqu'un qui a envie de mon corps. Et en plus, il file à l'époque, c'était un billet de 50 francs pour le sucer. Ce rapport au plaisir, ben, on le trouve où on peut. Et comme la médecine nous a empêchés de le trouver là où autrui le trouve, on le trouve différemment. Oui, effectivement, c'est souvent dans l'addiction, la prostitution, ou les deux.
Toi, Ikram, t'as envie de vraiment devenir un homme et de faire de la chirurgie?
Ouais. Parce que les gens ne sont pas prêts à avoir un mec avec des seins, ça me gêne parce que ça gêne les gens, en fait. C'est ça. Le jour où peut-être, ouais, ça rentrera dans les mœurs, peut-être que...
Il suffirait d'un peu de place pour redonner un peu d'espace aux sentiments de vous à moi.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre avec Intersex, un reportage d'Inès Leroux, réalisé par Delphine Lemaire et diffusé pour la première fois le 12 mars 2014. Sachez que depuis cette première diffusion, Vincent Guillot, la troisième personne que vous avez entendue, vit toujours bien son double genre et qu'il a porté plainte auprès du Comité contre la torture de l'ONU et qu'il a gagné. La France a donc été condamnée. Depuis la première diffusion de cette émission également, il y a eu en France des progrès notables dans la protection des droits des personnes intersexuées. Merci pour cette émission à Dany, à Ikram, à Vincent Guillot donc, et au juriste Benjamin Moron-Puech. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre, et Liana Valken, c'est notre stagiaire. Pour partager notre travail, pour nous faire savoir ce que vous en pensez, direction les réseaux sociaux, nous avons une page Facebook et un compte Twitter qui vous attendent tous les deux avec impatience.